Matin, bien, on vient de terminer avec le chant Ton nom. Et je l'ai noté tout de suite, Ton nom. Je trouvais ça ironique. Ironique parce qu'on va étudier, et ce matin, on va regarder un livre qui ne mentionne jamais le nom de Dieu. Pas une seule fois, on retrouve le nom de Dieu dans le livre d'Esther. Et on vient de chanter Ton nom, ton nom, ton nom. Et pourtant, le livre d'Esther, ce qu'il va nous enseigner, a tellement de puissance que le nom n'a même pas besoin d'être dit pour voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Et ce matin, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Je commencerai avec une histoire ce matin pour nous mettre en... pour introduire ce qu'on va regarder ce matin dans le livre d'Esther. Je disais cette histoire, je ne sais pas si c'est une histoire vraie. On aime toujours les histoires de naufragés. L'histoire de naufragés ont créé à travers les années 1700 avec les naufrages qu'il y a eu, toutes sortes d'histoires intéressantes comme Robinson Crusoe et tout cela. Et il y avait une histoire à propos d'un naufragé qui, évidemment, avait essayé de récupérer toutes ces choses et... s'est ramassé sur une île perdue, c'est toujours sur les îles perdues que se ramassent les autres naufragés. Hein? Et cet homme-là s'était évidemment installé et il avait réussi à récupérer le plus de choses qu'il pouvait sur le bord de la plage, de son naufrage, de la tempête qu'il avait eue. Il s'était installé, il avait fait une hutte et ça faisait des semaines qu'il était là. Et il devait évidemment braver tout seul le soleil brûlant du jour, les nuits froides, les tempêtes tropicales. Il scrutait l'horizon pour toujours chercher, voir s'il y avait un navire. Et ça faisait quand même quelques semaines qu'il faisait cela. Et un soir, cet homme malheureux revient après avoir été à regarder partout et arrive à sa hutte. Elle est en feu. Et cette hutte en feu le décourage totalement. Tout est perdu. Il est consterné. Il reste cloué à sa place. Et même ce soir-là, il dort là, proche des cendres. Parce que non seulement il avait tout perdu dans le naufrage, le petit peu qu'il avait pu recueillir, là, il avait encore tout perdu et il était encore davantage plus seul, isolé et vulnérable. Et tout à coup, en se levant le lendemain matin, il remarque un bateau qui était ancré près de l'île. C'était la première fois qu'il voyait un tel bateau depuis des semaines, depuis qu'il s'était naufragé, évidemment. Il n'en croyait toujours pas ses yeux. Il entendit tout à coup une voix derrière lui, des pas qui s'en venaient, et le capitaine qui lui adresse la parole et dit, « Nous avons perçu votre signal de détresse, monsieur, et nous sommes venus vous secourir. » Ironique, hein? Signal de détresse? Non, non, j'étais en détresse, mais pas parce que, pas pour les mêmes raisons. Tout ce que le pauvre naufragé possédait, avait dû être détruit avant qu'il puisse être découvert et sauvé. Dieu semblait bien loin et pourtant il œuvrait sur les deux tableaux en même temps. D'un côté, amener ce bateau au bon endroit, au bon moment, en même temps que de permettre que dans la chaleur du jour, d'une manière quelconque, puisse partir en feu ce qu'il lui possédait comme hutte pour lancer le signal et tout ça convergeait ensemble. Il n'y a pas eu de message spécial, il n'y a pas eu de révélation. Juste toutes les circonstances qui ont travaillé ensemble d'une manière qu'on peut signer en bas de la page Dieu, n'est-ce pas? Et peut-être que vous avez des circonstances comme ça dans vos vies qui sont arrivées, alors que je vous le raconte, ça vous fait penser. Peut-être des circonstances qui sont arrivées où vous avez vécu un timing incroyable de Dieu. Vous avez vécu un moment où ce que vous n'auriez pas pu orchestrer une telle chose. Les choses ont convergé d'une manière que le hasard non plus ne peut pas expliquer. Surtout, c'est d'autant plus que vous avez prié pour et que vous avez intercédé le Seigneur dans votre détresse pour faire quelque chose à un moment donné où vous étiez dans une grande vulnérabilité et que seulement Dieu pouvait faire quelque chose. Et le livre d'Esther, sans nommer Dieu, célèbre Dieu à l'œuvre dans sa providence, d'une façon merveilleuse. Et ce matin, je vous partage, pas d'une manière anodine, ce message. Je l'ai préparé depuis des mois pour cette date-ci. C'est un peu une préliminaire pour la Pâque. C'est une préliminaire pour la Pâque. Et d'autant plus parce que cette semaine, jeudi, c'est la fête des Pourim. Vous connaissez la fête des Pourim? On n'est pas bien habitué à ça tant que ça, les chrétiens, la fête des Pourim. Hein? Jeudi, c'est la fête des Pourim. On ne l'a jamais célébré en famille, la fête des Pourim. Mais il y a un an, j'ai cherché la date, puis je me suis dit, ce matin-là, cette semaine-là, on va lire le livre d'Esther. À tous les jours, normalement, on lit dans la Bible un chapitre à l'heure du souper, au moment du dessert, pendant qu'on mange notre dessert. On lit un chapitre de la Bible. Et on a commencé lundi, j'ai dit aux enfants, on commence lundi Esther pour terminer juste en temps jeudi. Là, c'était timé mon affaire. Et là, ben pourquoi tu changes au milieu un livre, papa, là, fais-moi confiance, vous allez comprendre en cours de route. Alors, je ne vous ai pas tout expliqué encore, mais jeudi, c'est la fête des Pourim. J'ai fait par exprès pour lire l'histoire, pour qu'on puisse l'apprécier. Parce qu'il annonce une grande délivrance que Dieu a fait pour son peuple, qui, je crois, est précurseur d'une plus grande délivrance encore. Celle qui n'était pas temporelle, mais celle qui serait permanente. Celle de la délivrance de nos péchés par le Seigneur Jésus-Christ. Et on va ce matin apprécier, et j'espère honorer le Seigneur dans cette délivrance qu'il a fait auprès du peuple juif, qui va nous dépeindre un petit peu une œuvre tellement plus grande que celle qu'on va célébrer la semaine prochaine. Et qui pourtant, celle-ci est merveilleuse, elle est grande, elle est incroyable. Elle va nous amener, j'espère, à admirer Dieu et peut-être faire la paix avec certaines situations qu'on vit. Et pourtant, la prochaine semaine, la fin de semaine prochaine, elle est parfaite, elle est complète. Celle-ci n'est que son ombre, en quelque sorte. Et donc, même si nous ne sommes pas juifs, on n'a pas besoin d'être juif pour apprécier cette histoire. Parce qu'évidemment, c'est l'histoire de comment Dieu a protégé son peuple. Mais on sait aujourd'hui que son peuple n'est plus limité simplement à Israël, mais que son peuple est parmi toutes les nations. Et ce sont ceux qui n'ont pas seulement le sang d'Abraham, non, ce sont ceux qui ont la foi d'Abraham, qui font partie de son peuple maintenant. Et donc, on peut apprécier cette histoire-là comme peuple de Dieu et célébrer la fête des Pourim, si vous voulez. Cette semaine, je vous donnerai quelques idées. Comment vous pourriez faire ça de manière un peu différente? Et j'espère donc que ça va vous inspirer tout cela. Je vous invite à aller dans le livre d'Esther, prendre votre Bible. Et j'aimerais vous lire, avant de prier, ces fameuses paroles qu'on retrouve dans le chapitre 4. Et après ça, on va prier et demander au Seigneur de bénir ce temps ensemble. On va lire les versets 10 à 17 du chapitre 4. Esther chargea Hatak d'aller dire à Mardochée, un de ses eunuques qui travaillait pour elle, « Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort qui contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure pour sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. » Lorsque les paroles d'Esther eurent été racontées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre les Juifs parce que tu es dans la maison du roi, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. » Mardochée était son cousin en passant. Fait que la maison de son père, ça fait aussi partie de lui. Il l'avait adopté. Et qui sait, et soulignez ceci, et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Qui sait? Esther envoya dire à Mardochée, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai et même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Mardochée s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Prions ensemble. Bon Père Céleste, ce matin, on lit cette histoire et dont beaucoup connaissent déjà l'histoire. Et Seigneur, on veut pourtant le relire d'une manière comme si c'était la première fois, toute fraîche. et en apprécier pleinement, Seigneur, le message puissant que tu as pour nous ce matin. Et Seigneur, je connais cette histoire du bout des doigts, j'aime cette histoire depuis tellement longtemps. Et Seigneur, il serait facile pour moi de la raconter et d'être, Seigneur, excité à la raconter, Seigneur, dans ma chair. Et pourtant, ce matin, tout comme mes frères et mes sœurs, on implore ton esprit sur nous pour que je puisse parler et que nous puissions, Seigneur, tous entendre ta voix et non la mienne. Que tu parles à nos cœurs, Seigneur. Que ce matin, on soit dans l'attente que tu as un message pour moi, personnellement. Et Seigneur, on t'implore ce matin, parle-nous. Que ce ne soit pas une autre histoire, un autre message, un autre texte, mais bien un message puissant qui manifeste qui tu es et combien grand et puissant et en contrôle tu es, Seigneur. Fais-le nous comprendre ce matin. Rends-le percutant à nos cœurs. On te le demande, Seigneur, par ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, vous devinez que je ne vous lirai pas tout le livre, même s'il est court, on aurait été capable de le lire, mais je vous invite à le lire cette semaine et apprécier son message préparatoire pour la fête de Pâques. J'ai prêché sur ce texte et en fait, j'ai fait cela il y a déjà 12 ans. Alors je me permets de revenir dessus de manière rafraîchie, de nouvelles perspectives, 12 ans plus tard. Et puis honnêtement, avec beaucoup de choses que j'ai tassées et que le Seigneur me met à cœur de vous partager différemment aussi. Alors, c'est le fun des fois de revisiter un texte qu'on a fait il y a bien longtemps et de regarder comment on le voyait il y a des années et comment on le voit aujourd'hui. Donc, je vous le partage de manière évidemment très rafraîchie et j'espère qu'il sera rafraîchissant pour vous. Première diapo, il serait facile de lire le livre d'Esther et de ne pas comprendre vraiment à quelle époque on se trouvait. Donc, je me permets de faire ici, en commençant, une petite incise historique pour laquelle la moitié d'entre vous allait dire « Ah, c'est intéressant, je trouve ça intéressant. » Et l'autre moitié va dire « Il peut-tu passer aux choses intéressantes? » Alors, pour cette moitié-là, je m'excuse. Pour l'autre moitié, je crois que c'est important de le savoir. Ça va vous aider à l'apprécier, OK? Mais si vous baillez, bien, faites-le discrètement, tu sais. Si vous regardez votre montre aussi, faites-le discrètement. Si on ne comprend pas à quelle époque c'est écrit, c'est facile pour nous de penser que c'est juste une histoire. Mais c'est une histoire extrêmement historique. Et l'historien Hérodote, qui est un historien de l'époque, a beaucoup raconté les mœurs de cette époque-là et beaucoup, beaucoup de choses parallèles qui nous confirment que tout ce qu'on lit là est extrêmement juste et précis sur la culture de l'époque. C'est pas juste une histoire fantaisiste qui a été ajoutée 100, 200, 300 ans après cette époque-là ou exagérer une histoire. Il y a vraiment trop d'informations à l'intérieur qui sont confirmées d'une manière, mais sérieusement, là, vous pourriez écrire de la moitié du livre juste en informations historiques qu'on a qui confirment ça. C'est très intéressant de lire Hérodote et de voir les informations parallèles. Et là, je vous ai placé ici le livre d'Esdras pour vous mettre un peu en contexte. Alors, en 539, les Juifs sont en exil depuis 70 ans, et particulièrement les Juifs qui sont de la Judée, ils sont en exil en Babylone. La ville a été détruite, le temple a été détruit, et là, maintenant, ça fait 70 ans, Jérémie a fait un message, ça prendrait 70 ans cet exil-là avant que ça soit reconstruit. Et le prophète Daniel prie pour ça et le Seigneur répond. Et il y a un groupe qui vont partir en 39 sous l'autorisation de Cyrus pour aller reconstruire le temple. Pas les murs, mais le temple. Et donc, proche de 50 000 hommes et femmes sont partis. Il y en avait d'autres qui sont restés. On pourrait les juger, mais le texte ne les juge pas. Et ceux qui ne sont pas partis sur le coup, ça ne veut pas dire qu'ils veulent partir 10 ans ou 20 ans plus tard. La liberté de pouvoir émigrer ici et là n'était pas nécessairement à toutes les 10 ans comme la même chose, surtout d'une royauté à l'autre. Et donc, on lit dans Esdras, chapitre 1 à 6, des événements qui se passent en l'an 539 avant Jésus-Christ. Ça a pris une vingtaine d'années finalement avant que le temple, il y a eu des moments de pause, des difficultés, et le temple est construit en 515. Et donc, lorsqu'on arrive à l'histoire d'Esther, on arrive ici sur un autre roi, une autre époque complètement différente. Et pour ceux qui ont peut-être lu dans l'histoire la grande bataille navale des 1200 bateaux perses qui sont allés se battre contre les 600 bateaux de la Grèce, et ces millions d'hommes qui sont venus avec Xerxès attaquer la Grèce, il y a des films 300 et autres qui ont été faits au sujet de tout ça, ça s'est passé exactement dans la vie d'Esther. Parce que son père, du roi que Esther va marier, est celui qui est allé faire cela en 490, et la bataille navale se passe juste après que Vashti, la reine, a été démise de fonction. Il avait fait des grandes croisades pour inviter ses généraux, les gens de tous les pays. Il avait fait des grandes fêtes pendant 6 mois. C'était toutes des préliminaires pour préparer une grande bataille historique. On retrouve encore aujourd'hui dans les magazines de batailles navales, de batailles historiques, ces combats qu'il a eus, et ça a inspiré des films, évidemment. Ça s'est passé justement en l'an, et là je l'ai mis ici, 81 à 79, la guerre contre la Grèce. Et c'est débiné et humilié qu'après ça, il revient, il n'y a plus sa reine, et que là va se passer le concours qui avait commencé avant son arrivée de beauté pour trouver une reine. Si on comprend ça, ça nous aide à nous situer dans le temps. C'est un vrai roi qui était un grand roi, Xerxès. Un homme extrêmement puissant, aussi important à son époque qu'on aurait pu comparer à César. Et qui était celui qui était en pouvoir sur une partie de la terre la plus grande contrôlée par cet homme-là, au centre de la terre, si on peut dire de l'époque, puisqu'on ne parle pas d'Amérique du Nord ici. Et Esther se trouve à être donc devenue sa reine à son retour en 479. Et c'est 6 ans plus tard, pendant son 13e année, que là va se passer toute la situation où ce que Haman a gagné en crédibilité, en contrôle et qui a réussi à passer, c'était dit pour l'extermination des Juifs du royaume et qu'on va lire leur virement. Mais tout ça nous aide à comprendre. Si on comprend qu'un homme juif d'une princesse juive était à la cour et que le fils de ce roi-là est devenu le roi à l'époque d'Esdras et de Néhémie, on comprend pourquoi. Le contexte qu'on a un homme comme Néhémie qui donne la coupe du roi, qu'on nomme des centaines, littéralement une centaine de noms de juifs nobles de l'époque qu'on retrouvait dans des documents des années 400, d'hommes à la cour, des nobles, etc. Les gens avaient pu prendre leur place en société comme communauté juive à cause du fait que Mardochée était devenu l'homme à la main droite du roi. Ça explique des choses, ça nous aide à comprendre ici le moment favorable que Dieu a préparé pour le travail d'Esdras, pour renouveler le peuple dans sa parole, le travail de Néhémie pour reconstruire les murs, et être favorable à même financer ça de la part du roi, parce qu'il y avait beaucoup de juifs, il y avait même, on dit à l'époque, un groupe de financement juif à cette époque-là, à la ville de Suse, dans cette capitale-là importante, au niveau du gouvernement. Si on comprend ça, on peut apprécier plus l'histoire et aussi les textes autour de Esdras, qui là, le chapitre 7 à 10, sont après le livre d'Esther. Alors, pour ceux qui s'endorment, on va passer à d'autres choses. Pour ceux qui apprécient, ça vous aide à vous mettre en contexte. Et je crois que c'est vraiment important. OK? Prochaine diapo. Alors, où est-ce que c'est la ville de Suse? Alors, vous serez surpris d'apprendre que c'est dans ce qu'on appelle aujourd'hui... Oups, là, j'ai avancé, j'ai pesé sur une mauvaise piton, excusez-moi. On va reculer en arrière. Juste ici. Proche d'un fleuve qui est juste là ici, on a l'ancienne ville de Suse. Et donc, tout ce territoire-là ici, c'est un territoire qu'on appelait Élamite, duquel viennent les Mèdes et les Perses et qui ont envahi la Babylonie jusque dans la Turquie. Et donc, ils contrôlaient ici tout ce territoire-là qu'on a du Koweït, de l'Irak, la Syrie, jusqu'au nord ici. Alors, tout ça était contrôlé. C'est un grand territoire. Et donc, Suse se trouve aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'Iran moderne. Okay? C'est important pour vous de savoir, c'est très, très, très loin de Jérusalem ici. On est très, très, très loin. Même si on a peur aujourd'hui que l'Iran pourrait envoyer des bombes vers Israël. Okay? Et là, je vous donne un résumé un peu du livre. Le livre est particulier parce qu'on pourrait dire que c'est un peu un livre de party. Okay? Parce que 19 fois, on parle de festin. Et quand on parle de festin ici, c'était pas juste on a eu un gros lunch. OK? C'est pas juste un gros lunch. Quand on parle de festin ici, c'est avec toutes des lettres majuscules. Et donc, notre mot moderne, party, là, c'est un euphémisme. Parce que c'est la beuverie, c'est des gros mets, c'est exagéré, c'est long, c'est des heures de temps, c'est pas juste un gros repas, là, au rouge vin avec une bouteille de vin, là. C'est pas mal plus que ça, mettons. OK? Et 19 fois, on parle de festin dans la Bible, une quarantaine de fois, ce mot-là. La moitié des fois, c'est dans ce livre-là. Alors, on peut s'entendre ici qu'on parle beaucoup de fêtes et que tout tourne autour de des fêtes à tous les chapitres. À chaque fête, il y a quelque chose qui se passe et il y a une intrigue qui se passe à quelque part dans la fête. Tout le temps, à chaque fois. Et la première fête s'est faite, évidemment, avec le roi qui fait ça pendant 6 mois. Et là, on lit ça et on dit, c'est pas possible. Ça se peut pas. Tout comme on dit aussi, c'est pas possible qu'à cette époque-là, il y ait une armée de 1, on parle jusqu'à 5 millions d'hommes qui ont traversé la Turquie pour aller combattre contre les Grecs. C'est démesuré comme nombre. Mais c'était comme ça. C'était une grande royauté. C'était un homme extrêmement puissant et il a séduit tous ses caporals, ses généraux dans ses 127 pays qu'il contrôlait pour les inspirer à la guerre avec lui. Et donc, il fallait qu'il en mette tout qu'un party et au bout de tout ça, mener une fête en particulier où ce que là même les gens sont invités dans la cour du roi. Imaginez, là, le peuple de la capitale sont invités. C'était quelque chose démesuré. Et il allait avoir aussi à cause de ça un combat, une guerre démesurée après ça contre les Grecs aussi qui va rester et marquer l'histoire et pour lequel, évidemment, les Grecs ont une grande, grande fierté. Il y avait de quoi? C'était tout qu'un combat. Et donc, pendant ce banquet, il veut montrer sa femme. Sa femme refuse de venir. On ne nous dit pas les raisons. On peut spéculer, mais ça ne semble pas important. C'est le fait qu'elle a eu l'audace de dire non à son mari, d'humilier son mari devant ses invités, qui étaient tous réchauffés en passant. Le texte le dit bien clairement. Alors, elle n'est pas venue. Elle avait son propre party de femme chez eux. Puis là, il l'interrompait pour venir la parader, pour montrer comment elle était belle. Ah, il était fier de la beauté de sa femme. Pourquoi elle a refusé exactement? On ne sait pas exactement, mais ça l'a insulté tellement que les hommes autour de lui ont dit, « Faut pas accepter ça, que la femme du roi fasse pas ça. » Mais ils en ont fait un exemple, ils ont dit... Ils l'ont démis de ses fonctions, ils ont fait un édit pour expliquer ça et que toutes les femmes devraient respecter leur mari et dire non, c'est inacceptable une circonstance comme ça. Sinon, si la reine fait ça, bien, toutes les femmes vont s'en permettre. Et c'est là que les femmes disent ensemble, Amen. Non? OK. Mauvais timing. C'est là que les machos disent Amen. Excusez-moi, je me suis trompé de ligne, hein? C'est ça, hein? On pourrait s'arrêter là-dessus, mais... C'est de la pacotille, c'est juste l'entrée en matière pour nous aider à comprendre comment ça est arrivé là. Mais on voit ici un homme, hein, imbu de lui-même, un homme en contrôle, l'orgueil, comment qu'elle amène à faire toutes sortes de choses. Mais le Seigneur est en contrôle parce qu'il voulait amener une jeune femme à cette place-là. Et ça devait se passer à travers des circonstances où l'être humain fait des niaiseries. Hein? Et le Seigneur, il est en contrôle même quand les êtres humains font des niaiseries. Amen? Ça nous rassure un peu, hein? Parce que Dieu sait qu'on en fait des niaiseries. On n'est pas toujours fier de ce qu'on fait, mais pourtant, Dieu reste en contrôle. Il y a un plan qui déroge pas, même si on a l'impression que ça a l'air à faire ça comme ça. Là. Le Seigneur n'est pas intimidé. Lui, ça fait une ligne droite, mais nous, on ne l'a même pas vu passer. Et donc, il y a un party. Elle est démise de ses fonctions. Et là, évidemment, il va y avoir un autre party. Il va y avoir un concours de beauté, Miss Beauté Nationale. Toute qu'une affaire pendant un mois, des bombes, tout un fluff-là, en tout cas, pour trouver la femme pour cet homme-là. Imaginez. On ne parle pas d'un mariage d'amour ici, on parle d'un mariage de beauté. Hein? C'était vraiment ça l'accent. Mais Seigneur, il avait prévu une femme d'une beauté exceptionnelle pour cette tâche-là. Seigneur utilise la beauté aussi comme il veut. Et il avait préparé cette femme-là. Et donc, on décrit aussi son apparence extérieure comme étant, là, je ne serai pas macho, là, la Bible dit, sublime. Sublime. Alors, je dois le dire, c'est écrit. C'est comme ça qu'était. Il semble que tous les hommes ici seraient d'accord à dire en la voyant, « Wow! C'est une femme exceptionnelle en beauté. » Tellement qu'elle s'est démarquée, elle a eu la faveur des hommes clés et finalement, elle s'est ramassée à devenir la femme du roi. Ça nous fait un petit problème parce qu'on se dit, « C'est pas trop catholique ça. » Parce que là, une juive qui marie un roi païen, c'est pas supposé ça. Regardez, il y a plein d'affaires qui ne sont pas supposées d'arriver ici. Le but, ce n'est pas de dire que tout ceci est supposé d'arriver comme ça. C'est que le Seigneur a accompli son plan, même quand on ne fait pas les choses comme ils sont supposés. Et il n'y a pas de jugement moral qui est fait sur ce fait-là. Parce que Dieu, dans une situation complètement loufoque, humaine, il y a des choses qui se passent, qu'on ne comprend pas le sens, qui nous semble, ça ne devrait pas se passer. Et pourtant, le Seigneur reste souverain. Ce n'est pas un encouragement à ça, mais il n'y a aucun jugement moral qui est fait sur cette situation-là. Le Seigneur orchestrait son plan. Et pourtant, ça ne se fait pas d'une manière très, très, très catholique, si on peut dire ça de même. Vous me comprenez? Y en a-t-il qui me suivent? Oui? OK, c'est bon. Et donc, chose intéressante, elle devient reine, et juste à la fin, une petite intrigue nous arrive à la fin du chapitre 2, et là, on nous apprend que Mardochée, qui traînait aux portes du palais parce qu'il voulait garder un contact avec sa cousine, on va revenir sur Mardochée et sa relation avec sa cousine, et qui ils sont exactement dans un instant. On va juste parcourir le livre pour comprendre. Il découvre que deux hommes qui tentent de tuer le roi, Il fait savoir l'information, faire circuler, et ça permet de sauver la vie du roi. Et on nous annonce ça dans les quatre derniers versets de ce chapitre-là. De même, avec aucune explication après, aucune récompense, aucun flafla. C'est comme s'il l'a fait, mais ça a été oublié, ou on a oublié de dire qui en était la cause, ou en tout cas, ils ont tellement mis l'accent sur la punition, puis de trouver les gars, puis les faire juger, ces deux hommes-là qui ont été tués, pour avoir comploté contre le roi, qu'on en a oublié le gars qui les a dénoncés. Suspense? Ben oui, on garde ça pour un peu plus loin. Hein, l'auteur, il nous garde ici, il y a quelque chose. Attendez, ça va revenir, il y a un effet ricochet qui va revenir, c'est un boomerang, ça va revenir. Prochaine diapo. Et donc là, on découvre un homme, Aman, qui nous est présenté comme un agagite. C'est agaçant, ça, un agagite. D'où ça vient? Je vous expliquerai ça dans un instant. Et cet homme-là est contre les Juifs, et surtout du fait que là, ça a instigé, il y a un homme à la porte qui ne veut pas se plier devant lui, parce que lui, il a un rôle, il est la main droite du roi, il est puissant. Et les gens sont supposés de se pencher devant lui, d'y offrir hommage. Mardoché, lui, pas pantoute. Puis il n'ose pas lever la main contre lui, mais il apprend qui, il s'informe. C'est qui ce gars-là qui se met debout? Ça me fatigue. C'est le seul que je vois dans toute la foule, le foutu fatigant qui est debout. Il voit juste ça, et ça vient chercher d'une manière incroyable dans son cœur, orgueilleux, qui veut avoir toute la gloire, qui veut avoir tout l'honneur pour lui. Et il découvre c'est qui, et là, il décide qu'il veut faire quelque chose, il va se débarrasser de lui, il est en train de réfléchir à ça, il y a de la colère qui monte contre lui, et finalement, il décide de passer un édit qui permettrait, et là, il présente évidemment tout ça, quand vous lisez le chapitre 3, vous pouvez voir comment il fait des compliments, là, puis il est vraiment têteux, là, auprès du roi Exercise, qui se fait avoir, évidemment. Là, les serviteurs savaient comment aller chercher dans son égo. Il y a un peuple, là, tu sais, qui sont vraiment rebelles, qui sont problématiques, il faut s'en débarrasser, etc. Puis écoute, m'a donné de l'argent si tu me permets de faire cet édit-là, m'a t'en débarrassé, moi, puis on nomme jamais le peuple, c'est drôle. Est-ce qu'il devait être nommé, j'imagine, mais le texte ne le nomme pas. Je vais t'en débarrasser, c'est un peuple que tu veux vraiment pas avoir dans ton royaume, etc. Et il fait faire un édit. Puis le roi, vraiment, là, mollasque, il voit pas ça passer, il accepte tout ça, puis il va aider à financer tout ça, puis l'autre fait son don en même temps, puis bingo, il a tout ça en main, et là, évidemment, chapitre 4 qu'on vient de lire, mais Aman a pris ça. Et là, il a déchiré son vêtement, il est en deuil, et là, elle a dit, qu'est-ce qui se passe, tu peux pas faire ça, là, on peut pas faire ça en grand public, etc., et tout ça, et là, lui, il dit, ben écoute, il faut que tu interviennes, ça n'a pas d'allure, il y a cette loi qui est passée, puis tu t'en tireras pas. Et là, fait cette grande déclaration, « Si je dois périr, je périrai. » Elle avait expliqué qu'elle ne pouvait pas juste rentrer dans le palais comme ça, même s'il était reine, parce qu'elle n'était pas toute seule, là, dans le fond, à être avec le roi. Là, elle ne l'avait pas vu depuis 30 jours parce qu'il y avait des concubines entre-temps qui remplissaient l'espace-temps. Et il y avait d'autres femmes autour, mettons. Fait qu'elle ne pouvait pas juste rentrer là comme elle voulait. Et chose intéressante ici, je vous fais une petite parenthèse. Esther et Ruth sont les seuls livres de la Bible nommés d'après une femme. Chose intéressante. Ruth était une femme païenne qui a marié un juif, alors qu'Esther est une femme juive qui marie un païen. C'était l'expression qu'on utilisait pour parler des gens qui étaient non-juifs. Les deux femmes possèdent une grande foi et du courage. Les deux aident à sauver la nation d'Israël, Ruth, en portant la naissance d'un fils qui serait l'arrière-grand-père, le grand-père du roi David. Et Esther, par la mort des ennemis d'Israël qui tentaient de faire un génocide, de débarrasser le monde de tous les Juifs. Ce qui était finalement une attaque contre quoi? La venue du Messie, n'est-ce pas? C'est une attaque directement à la prophétie messianique de vouloir se débarrasser d'Israël dans son entité, au complet. Fin de la parenthèse. Maintenant, chapitre 5, il y a un banquet, elle les invite et elle fait comme un premier banquet pour préparer l'autre banquet. Et entre-temps, Aman revient à la fin du banquet à la maison, puis il voit encore le fatigant de Mardoché. Il parle à ses conseillers, à sa femme, et là, monsieur décide d'installer un gros poteau chez eux pour pendre bien haut dans sa cour Mardoché à l'idée de ses amis. On va y revenir au poteau. Et finalement, il est tout fier de ça. Le lendemain, il est réinvité à aller au... En fait, il va au palais le lendemain matin, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que pendant la nuit, le roi feint de l'insomnie. On n'aime pas ça faire de l'insomnie, hein? Mais merci Seigneur pour les rois qui font de l'insomnie des fois, hein? Parce que des fois, dans l'insomnie, il vient des bonnes choses, des moments de prière, des prises de conscience, des repentances, et toutes sortes de choses. Et cette insomnie-là est utilisée par le Seigneur. Le Seigneur est bon. Il dit, Lisez-moi, là, quelqu'un va me lire. Il y avait toujours quelqu'un disponible à côté de lui là, pour y lire des histoires. Fait que, il demande pour faire des histoires sur les chroniques de la cour, ce qui se passe à la cour, pour se rappeler ce qui se passe. Et il tombe sur l'histoire d'il y a des années de Mardochée, cet homme-là qui avait sauvé la vie du roi. Hey, c'est tout qu'un addon, hein? Comme par hasard, ça tombe sur l'histoire qu'on avait oubliée il y a quelques chapitres. Hein? Ironie du sort, l'histoire revient le soir entre les deux banquets. Juste comme ça, par hasard. Il y a des par hasard qui arrivent comme ça des fois dans la vie. Hein? Et finalement, il se dit, qu'est-ce qu'on a fait pour cet homme-là pour le récompenser? Rien. Il y a quelqu'un en cour qui s'en vient. Fait qu'il a passé la nuit à pas dormir. Amant, il est temps. Amant, s'il y a quelqu'un que je veux honorer, là, puis que je voudrais vraiment mettre en évidence, là, puis le remercier devant le peuple, qu'est-ce que je devrais faire? Aïe, Amant, hein? Cling, on voit une image dans sa tête là, qui dit, il veut m'honorer, c'est moi, c'est tout ça pour moi. Fait que là, il fait sa grande liste, hein? Et il fait sa grande liste! Et qu'est-ce qui arrive après sa grande liste de qu'est-ce qu'il devrait faire? Il avait dit, hein, tu mets un de tes manteaux, tu le mets dessus un de tes chevals, puis un des meilleurs hommes de tout ton royaume, tu le fais envoyer, tu la place la plus importante de la ville, et là, tu te promènes en disant, voici la manière dont le roi honore celui qu'il désire honorer. Hein, puis vas-y au galop. Et là, le monde s'écrase en un instant. Une seconde. Il dit, c'est super ton idée, Mardochée. Tu parles d'une idée puis de l'initiative. Hey, moi, j'aime ça, un homme comme toi. Écoute-moi bien. Ce que tu vas faire, tu vas aller voir là, le petit fatigant là, à l'entrée là, qui n'a pas de la riche puis il est là qui m'a dit. Puis tu vas le prendre, tu vas aller faire ça. Il s'appelle Mardochée. Il voulait mourir drette là. Il aurait préféré avoir une crise cardiaque. Hein? Puis tu vas aller le promener. L'humiliation est tellement que regardez ce qu'on lit. Au chapitre 6, à la fin, le dernier verset. Et c'est des paroles qui viennent de sa femme. Et là, on peut sous-entendre plusieurs choses dans ces paroles, mais on dit ceci, au verset 13 du chapitre 6. Amant raconta à Zeresh, sa femme, c'était un beau nom à l'époque, là, OK? Et tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et son épouse lui dirent, « Si Mardochée, devant lequel tu as commencé à tomber, est de la race des Juifs. Tu ne pourras rien contre lui, car tu tomberas devant lui. » En fait, littéralement, c'est « tomber, tu tomberas ». Ça veut dire « certainement, tu tomberas ». Et quand tu utilises un verbe deux fois comme ça, c'est très fort. C'est une certitude, c'est garanti. Et c'est sa femme qui fait une déclaration comme ça, précurseur de ce qui va se passer le prochain chapitre. Assez spécial. Hein? Et là, elle dit, si surtout de sa race, il y a un lien ici avec sa race. On va y revenir là, à cette histoire-là de leur race et respective. Et finalement, ben, ce qui arriva le lendemain à ce party-là. Et à peine il y avait cette nouvelle-là, que là, la personne qui venait le chercher pour l'escorter est arrivée en plein quand sa femme parlait. Puis il s'en va direct. Fait que lui, il arrive là, tout piteux, puis déprimé. Là. C'est plus le party pantoute, même s'il y a un autre party avec le roi puis la reine. Et là, elle lui dit tout ça. Quand le roi apprend cette affaire-là, il est en colère. Et là, entre-temps, Mardochée, il vient supplier ses cuisses, la reine, là, tu sais, là. Puis, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Puis finalement, qui est une juive, qui veut tuer les juifs, ironie du sort, encore une fois, le roi arrive, puis là, en plus, t'essayes de violer ma femme! Hey! Fait que là, il l'emmène, et où est-ce qu'il se fait pendre? Sur le poteau? Où? Dans sa cour. Le poteau qui avait été préparé pour qui? Ironie du sort, n'est-ce pas? T'es drôle d'adon, hein, quand les choses se passent. Et là, évidemment, à ce moment-là, les trois derniers chapitres nous racontent comment, finalement, il ne peut pas canceller la nouvelle règle. Mardochée prend la place, la maison et tout ce qui appartient à Mardochée. Il devient le bras droit et lui donne l'autorité de préparer une nouvelle loi parce qu'il ne peut pas canceller l'ancienne. Fait qu'il met une nouvelle qui va permettre à ce qu'il puisse se défendre les Juifs et pouvoir attaquer ceux qui voudraient les attaquer. Et donc, cette loi-là est vraiment importante. Et chose intéressante, on va y revenir. On va y revenir, oui. J'ai tellement de choses à vous dire ce matin, mais prochaine diapo. Pourim. D'où ça vient ça, Pourim? Parce que si on voulait un nom bizarre comme fête, en voulait un, tu sais. Pour, c'est tout simplement le mot perse pour parler du sort. Parce que comment est-ce qu'il a choisi la date? Je ne l'ai pas raconté. Mais on raconte au chapitre 3 qu'il a joué avec le sort. Comment est-ce qu'il a fait ça exactement? On pourrait spéculer, mais il a joué avec le sort pour découvrir lequel mois de l'année. Et en faisant le sort, sur quel mois de l'année qu'il allait choisir pour être cette journée-là qu'il allait marteler sur les Juifs, ça se trouve à devenir la fin de l'année. Fait que ça donnait en masse de temps. Le Seigneur permet que par le sort, ça tombe. Dernier mois de l'année, le 12e mois, le 13e jour. Et donc, par le sort, par le pour, les sorts ont été jetés et a été trouvée la date. Et donc, on a appelé la fête des sorts au pluriel pour Rim. Rim, c'est le pluriel, tout simplement. Alors, c'est la fête, ça fait drôle. On célèbre la fête des sorts. Tu es supposé de jouer les chrétiens avec le sort? Hein? Tirer au sort? Personne ne répond. Hein? Si je dis oui, il va dire non. Si je dis non, il va dire oui. Hein? Qu'est-ce que j'ai, là? Est-ce qu'on peut jouer avec le sort? C'est correct, c'est une fête qui célèbre le sort. Est-ce que vous vous rappelez comment que les disciples ont choisi de remplacer le disciple qui est mort? Par le sort, ils ont remplacé Judas. C'est-tu un indice pour dire que quand vous voulez choisir quel job choisir, vous jouez au dé, puis... Non, c'est pas ça que ça veut dire, c'est pas? Ce qu'il faudrait dire ici, c'est que même dans le sort, le Seigneur est au-delà de tout ça. Il n'y a pas de sort qui dévie la volonté de Dieu. Et Dieu peut même manifester sa volonté à travers le sort. Même le sort que les gens peuvent jouer avec, le Seigneur peut faire connaître sa volonté et utiliser ces choses-là, les choses qu'on ne voudrait rien avoir à faire avec, les choses qui sont occultes ou les choses qui veulent parler de l'avenir ou les choses de ce genre-là que la Bible condamne aussi. Même quand quelqu'un fait ça, le Seigneur, son chemin, sa providence et où ce qu'il va nous amener ne demeure pas inchangé. Vous comprenez ça? En fêtant les Pourim, on célèbre le fait que Dieu, même dans les sorts, contrôle tout ce qui se passe vers son but. Même les sorts. Rappelez-vous de ça, la fête des sorts. Pourquoi? Parce que même les sorts sont contrôlés par Dieu. Même Dieu peut faire sa volonté à travers quelque chose aussi naïf et ridicule. Et on en parle justement de l'institution de cette fête-là avec le nom et que Mardochée a donné au chapitre 9, verset 24. Prochaine diapo. Conflit millénaire. Là, je vous ai parlé de ce nom-là parce qu'on le mentionne à quelques reprises. Amas, c'est un agagite. Nous autres, on lit ça, puis... Ça dit pas grand-chose, un agagite. Puis on dit que Mardochée, au chapitre 2, verset 5, et vous pouvez y tourner, regardez au chapitre 2, verset 5 à 7, on décrit leur relation. On nous dit d'un qui était le cousin de Esther, qui s'appelait auparavant Hadassa, et qui, le nom perse qu'elle a, c'est Esther, étoile. C'est un beau nom, hein? Esther, étoile. J'ai toujours trouvé que c'était un beau nom, Esther. Elle est pas là, Esther, hein? OK. Oui, dirige, je vais le dire, c'est un beau nom, Esther. Il y en a juste une ici, là. David l'a choisi, là, sa fille, Esther. C'est un beau nom. Ah non, il y en a un autre, mais ça, Esther. Esther Chaussée, ben oui, excusez-moi, là, c'est vrai. Ah, plusieurs compliments. Et donc, on dit que c'est la cousine et que ses parents sont morts et que Mardochée l'a adoptée. Ah, moi, j'aime cette histoire-là, une histoire d'adoption en plus. C'est une petite fille adoptée, Esther. Ah, le Seigneur a des beaux plans pour un enfant adopté. Ça avait une tristesse, elle avait été abandonnée de ses parents dans la mort de ses parents. Il y a un homme qui en a pris soin, qui l'a élevé, qui lui a montré le bon chemin, elle a pris les bons choix. Et le Seigneur l'a fait devenir cette fille-là, adoptée, une reine. C'est pas merveilleux ça? Extraordinaire. Et on nous dit que c'est des Benjamites. Et on nous dit que c'est pas juste des Benjamites qui viennent de la tribu de Juda, mais aussi qui viennent de la famille de qui? De Kish. Ça nous aide pas, à prime abord. Mais regardez la prochaine diapo. Kish, c'est le père du roi Saül. Saül était le fils de Kish et lui est de la même descendance par un des frères de Saül. Intéressant. Chose intéressante aussi, Agagite veut dire un descendant d'Agag. Il n'y a pas de doute là-dessus, il me semble. Agag, c'est qui? C'était le roi des Amalécites. C'était le roi que, presque 500 ans plus tôt, Dieu avait demandé à Saül de se débarrasser complètement de ce peuple-là, d'en faire un génocide ordonné par Dieu. Et ça, ça nous cause un petit malaise comme chrétiens, hein? Dieu qui commande qu'un peuple au complet soit éliminé par Saül. C'est Dieu qui l'a demandé. C'est-tu correct? On est contre les génocides, puis avec raison. Et là, un petit malaise, on se dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est arrivé il y a 500 ans. On peut peut-être même comprendre, puis avoir de la pitié pour Saül, qui a dit de tout débarrasser. Puis Saül, ce qu'il va faire, il va débarrasser de tout le monde, excepté le roi et sa famille, duquel vont venir des Agagites, hein, des descendants d'Agag. Puis, il avait gardé finalement des troupeaux, puis il va se faire taper ses doigts pour ça. Mais il faut comprendre que les Amalécites étaient des descendants d'Ésaü. Là, on retourne un autre 1000 ans en arrière. Ésaü, le frère de Jacob, qui est Israël. C'était un de ses petits-fils, Amalek, qui est une tribu, à part des tribus d'Édom, qui avait son propre peuple. Et ce peuple-là a attaqué Israël lorsqu'il était en train d'aller de l'Égypte vers la Terre promise. Les a attaqués d'une manière vraiment, vraiment, pas juste déloyale, là. En bon québécois, il faut le dire, c'était chien. Ça n'avait pas d'allure. C'était bas. Ils étaient vulnérables. Et ils les ont attaqués au chapitre 17. Et à cause de ça, et par une loi qui est venue dans les Deutéronomes, il a dit, « Ce peuple-là, vous n'aurez jamais de relation avec et je vais l'exterminer. » Pour la méchanceté qu'ils ont eue envers Israël de vouloir s'attaquer à Israël dans sa vulnérabilité alors que Dieu les conduisait à travers le désert. Et donc, c'est à l'époque de Saül que Dieu décide de faire ça. Ils ont eu longtemps pour se repentir. On s'entend, là, 400 ans pour se repentir. Ils ne sont pas repentis et c'est pour ça qu'on arrive là, à ce point-là, parce que ce peuple-là est violent, méchant et doit être entièrement exterminé. Il ne faut pas qu'il en reste. Mais Saül a décidé que, bah, éthiquement, tu sais, Seigneur, génocide, c'est pas cool. Puis là, moi, ça me fait mal à l'aise. C'est un bon gars à gars que j'ai déjà rencontré dans un festin de roi mané. Puis, tu sais, il est sharp, il a des beaux enfants. Il l'a épargné. Et rappelez-vous, les problèmes qu'on ne règle pas maintenant, à un moment donné, ils nous reviennent d'en face. C'est souvent comme ça dans la vie, n'est-ce pas? Les choses qu'on tarde à régler, qu'on sait que Dieu nous demande de faire. Ce n'est pas juste des objectifs qu'on s'est donnés, des choses que Dieu nous demande de faire. Il y avait une raison, même si c'était difficile, ça demandait un pas de foi pour Saül de passer pour le roi dans la région qui a éliminé les Amalécites. Ça paraissait pas bien. Mais Dieu avait une raison qu'on peut trouver difficile à comprendre, à accepter même. Mais Dieu avait une raison, il ne l'a pas faite. Et le problème est revenu encore plus tard, parce que là, cet homme-là a survécu, et finalement, il y a eu un poste de poids, puis à un moment donné, il y a eu l'opportunité, ce amant-là, des années plus tard, est en contrôle et fait une loi pour tuer tous les Juifs. Juste parce que Saül n'a pas... Et donc, Amant est dans ce sens-là l'antisémite, et Mardoché devient le nouveau Saül, mais lui, il va être plus grand que Saül. Il va compléter le travail que Dieu lui donne ici. Un chef remarquable qui se démontre dans cet homme Mardoché. Et donc, c'est pour ça que je vous ai mis ces informations-là. Ça vous aide à comprendre ici qu'on n'a pas juste un addon de personnages ici. Là. Il y a des personnages ici qui avaient des comptes à rendre d'une certaine façon, des choses à régler. Et là, ils vont se régler. D'une manière permanente avec un homme qui va faire un pas de foi et une femme qui va faire un pas de foi. Même si ça serait difficile. Même s'il y avait des risques. Prochaine diapo. Maintenant, n'allez surtout pas estimer le message et la puissance qui se dégage du livre d'Esther pour qui le comprend et le met en pratique. Et c'est le danger qu'un livre comme Esther de le voir juste une histoire, d'une histoire patriotique pour les Juifs et de ne pas voir son message. Là, probablement, je vois des gens qui rient, il y a peut-être une erreur dans mon écriture. J'avais hâte d'un massage, probablement. C'est mon genre d'erreur. Madame Bellemare a dit, Joël, t'aurais dû me l'envoyer ton PowerPoint, mais j'ai fait trop tard. Je vous donne une histoire moderne. Vous savez, si on sous-estime, nous, la puissance du message de cette histoire qui nous est lancée sur la puissance de Dieu qui est au contrôle de tout ce qui se passe, d'autres personnes n'ont pas sous-estimé son message. Un homme comme Adolf Hitler détestait les Juifs et détestait beaucoup le livre d'Esther. Tellement qu'il a proscrit une loi pour qu'ils n'aient pas le droit de célébrer, il cadenassait les synagogues pour qu'ils ne célèbrent pas la fête des Pourim à partir de 1939. Tellement qu'il ne voulait rien savoir. Il se disait, ces Juifs-là, ils vont vouloir se vanter d'avoir détruit les nazis. Ils vont vouloir que ce soit nous les 75 000 victimes dont le livre décrit plus tard. Et donc, il était férocement contre cette fête. Il la détestait. Il faisait tout pour l'empêcher. Et d'une manière quasiment maladive, je dirais. Et donc, il a compris son message, mais il a répondu négativement à son message. Il a dit ceci, « Si l'Allemagne n'est pas victorieuse, la juiverie fêtera la destruction de l'Europe pour une deuxième célébration triomphale des Pourim. » Et il l'a pris au sérieux. Et donc, il a promulgué cette loi-là, il a envahi la Pologne en 1939. Et à un moment donné, en 1942, en Pologne, 10 Juifs sont arrêtés pour la cause d'avoir célébré les Pourim. Et ces 10 Juifs-là sont condamnés pour leur lecture et ils sont pendus publiquement. Pourquoi? 10? Parce qu'on lit, dans les derniers 3 chapitres, que les 10 fils de Haman sont pendus après qu'il y ait eu la victoire. Les 10 fils sont pendus le lendemain pour honorer la victoire, pour tuer les 10 fils de cet homme-là qui voulait détruire Israël. Pendus. Et qu'est-ce qu'Hitler a choisi? On va en c'est correct. On va en choisir 10, nous autres. On va choisir 10 fils d'Israël. 10 juifs qui vont porter l'odieux que les fils d'Haman ont porté le jour même. Ils voulaient être ironiques. Ils voulaient se moquer de Dieu. Ils voulaient se moquer de celui qui était le défenseur des Juifs. C'était un affront total. C'était un déploiement, un attaque. C'était une déclaration de guerre, littéralement, à Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Prochaine diapo. Et avant même de dire ce qui est arrivé, j'aimerais dire ceci. Lui a répondu négativement au fait que ces gens-là croient dans l'idée d'Esther. Il a répondu négativement au message. Eux ont répondu positivement. Ils ont chanté par la foi, confiant dans le Dieu pour lequel ils allaient être sacrifiés. Ce n'étaient pas des chrétiens. Ils ne croyaient même pas dans le Messie qui était venu, eux. Ils croyaient juste dans le message d'Esther et le message de la délivrance du Dieu Tout-Puissant pour son peuple était suffisant pour eux pour avoir la force de marcher jusqu'à la pendaison en chantant. Quel témoignage! Quel témoignage! Incroyable! Regardez maintenant l'ironie du sort et comment les autres ont fini. Immédiatement après la guerre, il y a eu le tribunal de Nuremberg, vous savez, où ce que ces hommes, les nazis, ont été amenés devant la cour, condamnés, etc. Et ironiquement, 12 hommes sont condamnés à mort sur les 24 que vous voyez là, qui sont accusés pour crimes de guerre, pour génocide et toutes ces choses-là atroces. Et seulement 10 vont se rendre à la pendaison, parce qu'il y en a un qui s'est suicidé avant le temps. Puis l'autre a trouvé moyen de s'évader. Ironiquement, seulement 10 vont être pendus 3 ans plus tard. Et un de ces hommes, prochaine diapo, un de ces hommes, Julius Streicher, il était l'éditeur du journal pendant 20 ans antisémite avec lequel travaillait Adolf Hitler, un homme qui détestait les Juifs. Et vous voyez son image là comme en train de témoigner. Et cet homme-là, juste avant le supplice, a crié tout simplement « Purim Fest 1946 », concédant ici la victoire aux Juifs de l'ironie du sort. Même aujourd'hui, la puissance de Dieu peut faire des choses comme ça là. C'est pas venu sans souffrance, n'est-ce pas? C'est pas venu sans 6 millions de morts qui ont été faites avant. Différents temps, différentes manières, différents timings, différentes manières de faire l'ironie du sort pour ceux qui s'attaquent au peuple de Dieu. Et pourtant, c'est arrivé. Une autre illustration récente aussi de comment c'est important pour plusieurs et qui comprennent le message de ce livre. Prochaine diapo. Encore de nos jours, Mahmoud Ahmadinejad. Alors, c'était le président. J'ai massacré son nom, ça me dérange honnêtement vraiment pas pour cet homme-là. qui a été le président d'Iran jusqu'à il y a 3 ans. Vous avez vu à face en masse à ce gars-là. Antisémite au coton. Et tellement à vouloir s'attaquer contre les Juifs et contre le message du livre d'Esther et ce qu'il dit, qu'ils l'ont déplacé, je vous lis ici, ils auraient fait déclencher les mausolées déclassées, d'Esther et de Mardoché. Évidemment, Suze est dans l'Iran. Fait qu'ils sont arrangés pour faire des choses sur le territoire qu'ils contrôlent pour humilier, évidemment, les Juifs d'Iran, qui se considèrent comme des descendants d'Esther avec fierté, évidemment, se rendent traditionnellement en pèlerinage à Purim. Ils auraient ordonné que le site soit converti en mémorial pour les victimes d'Esther et de Mardoché et pour la fête des Purim soit renommée le festival juif du massacre des Iraniens. 1911, ça fait pas longtemps. J'ai dit quoi, 1911? Il n'y a rien à faire, je suis dyslexique, je l'accepte. Ça vous fait quelque chose à rire, hein? Il y a juste 5 ans, encore une fois, si nous, on ne comprend pas le sens puissant du message d'Esther, d'autres l'ont compris. Et même les Juifs le célèbrent. Et le nom de Dieu n'est même pas dans ce livre. Mais qui était le protecteur d'Israël auquel la femme de Haman faisait allusion que si tu tombes devant ce Juif-là, tu vas certainement tomber? C'était le Dieu d'Israël. Celui qui avait dit que ceux qui vont maudire dans Genèse, là je retourne à Abraham, Genèse chapitre 12, celui qui va te maudire, je maudirai. Celui qui va te bénir, je bénirai. Et je veux que tu sois une bénédiction pour les nations. C'est tout lié avec Abraham. Ils ont maudit et ils sont devenus maudits. Et même les Iraniens antisémites, ils ne sont pas tous évidemment, ont compris ça et détestent ce mémorial pour y mettre des paroles comme ça. Tellement qu'ils comprennent le message puissant qu'ils représentent. On va passer à la prochaine. Elle est déjà là? OK, oui, elle est là. Parfait. L'auteur nous démontre une accumulation de coïncidences providentielles qui ne peuvent qu'être attribuées à Dieu seulement. Et Joyce Baldwin, une femme commentateur que j'apprécie beaucoup, j'ai toujours ses commentaires très pertinentes, elle dit ceci, « Le fait même que Dieu ne soit pas nommé dans le livre prouve encore plus clairement qu'il règne souverainement en tout temps et non pas seulement en réponse aux requêtes des hommes. » Prochaine diapo. Je vous lis ce qu'on lit dans le livre au sujet de la pratique des Pourim. Et on le retrouve dans le chapitre 9, verset 21. Il dit, « Il leur prescrivait de célébrer, c'est Mardoché ici, chaque année, le 14e jour et le 15e jour du mois d'Adar. » Alors, le mois suivant, exactement, le 14e jour, c'est la Pâque. Donc, un mois avant la Pâque. Nous, on suit un calendrier un peu différent, fait que la Pâque est changée d'une année à l'autre. Elle peut aller de fin mars à la fin avril. Ma fille est née le 20 avril, il y a des années, puis c'était la journée de Pâques. Alors, eux autres, c'est beaucoup plus synchronisé à ce niveau-là. C'est pas juste lié à la fin de semaine de Pâques comme nous, on le fait dans notre calendrier. Comme les jours dans lesquels les Juifs, ils avaient obtenu eu du repos de leurs ennemis, de célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie et leur désolation en jour de fête. Et ces mots-là, là, vous devriez, ça devrait résonner des mots ici avec d'autres textes de l'Ancien Testament messianique, des textes aussi du Nouveau Testament vis-à-vis qu'est-ce que Christ a fait. Leur tristesse avait changé en joie et leur désolation en jour de fête. Et de faire de ces jours des jours de festin et de joie, où l'on envoie des portions les uns aux autres et l'on distribue des dons aux indigents, aux pauvres. Et donc, il inclut, il dit, vous allez célébrer ça en donnant des cadeaux à des amis, de nourriture, et aussi de faire des dons aux pauvres, tout en lisant cette histoire-là pour vous rappeler sa signification. Intéressant, on lit dans Psaume 30, verset 12, « Et tu as changé, le même mot, mes lamentations en allégresse, tu as délié mon sac, ce qui était pesant pour moi, et tu m'as ceint de joie. » C'est ce que l'Éternel fait. C'est ce qu'il fait. Prochaine diapo. la pratique des pourrims est donc pratiquée de cette façon-ci dans un foyer juif, mais souvent ils vont ajouter aussi des petites affaires locales. Ils ont des cressettes, puis des différents... ils vont crier à main avec les cressettes, puis qui font tourner avec du bruit. Ils vont des fois maquiller les enfants, puis faire des costumes, et des petites choses comme ça qui n'ont pas rapport avec la fête, qui sont ajoutées avec le temps. Mais voici une manière dont les chrétiens et les juifs qui veulent juste suivre les prescriptions ici peuvent faire un joyeux festin, la lecture de l'histoire pour s'en rappeler et s'en imprégner, faire des dons en argent aux pauvres et envoyer des cadeaux de nourriture à des amis. Une manière très simple par laquelle notre ami Mardoché a prescrit de se rappeler de cette fête. Mais allons un pas plus loin. L'accomplissement total des Pourim est suivant. Mardoché sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de bison et de pourpre. La ville de Susse poussait des cris et se réjouissait. Il n'y avait pour les Juifs que lumière et joie. Lumière parlait d'espoir. Hein? Il y avait tout à coup de la lumière. Tout à coup, là où il y avait du malheur, il y avait de la lumière. Il y avait une lueur d'espoir qui était sortie maintenant. Et qui est la lumière du monde? Le Seigneur Jésus. Et source de joie, d'allégresse, et honneur. Qui avait cherché l'honneur? Tout comme Satan cherchait l'honneur à l'insu de Dieu, Haman cherchait l'honneur. Tout le chapitre 6, il veut l'honneur. Puis il dit au roi comment donner de l'honneur. Mais finalement, c'est ce que lui voulait s'attribuer. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où en arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie, de l'allégresse, des festins et des fêtes. Et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs. Des conversions juives. Bénédiction des nations, car la crainte des Juifs les avait saisis. Prochaine diapo. On lit dans Jérémie. Et Jérémie, chapitre 30, et je vous en ai parlé la semaine passée lorsqu'on a fait le repas du Seigneur, n'est-ce pas? Le livre de consolation, où est-ce qu'il y a des prophéties sur un changement de cœur qui allait s'opérer. Et on lit au milieu de ces paroles, les paroles suivantes, « Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront. Et je changerai, le même mot, leur deuil en allégresse. Et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. » Et de quoi il parle dans les chapitres 30, 31, 32, 33? Il parle de paroles prophétiques qui vont s'accomplir lorsque Jésus reviendrait. Et ces versets-là dans le chapitre 31, les versets qui suivent sont cités dans le Nouveau Testament comme s'appliquant ce cœur circoncis, ce nouveau cœur, la loi qui va être en eux, dans leur cœur, s'accomplit par Jésus-Christ. Et ces paroles-là sont rattachées à cette prophétie-là exactement. Qui est celui qui nous donnerait du repos, la Bible nous dit, parce qu'on a dit qu'il serait un repos pour les Juifs, ils ont eu la paix. Jésus dit que c'est celui qui va donner le repos. Et même dans l'Apocalypse, en parlant de l'avenir, et d'être dans le ciel avec le Seigneur, il dit, il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont disparues. Voilà ce à quoi on aspire. Et lorsqu'on regarde le livre d'Esther, qu'on l'étudie, qu'on voit cette fête-là, qu'on voit la joie qu'elle procure, elle nous fait penser à la joie que nous procure ce que Jésus a fait à la croix. Parce que lui a amené l'ultime victoire, contrairement à cette victoire-là, où ce qui vont être défaits les Juifs plus tard par les Romains et par d'autres, humiliés à travers la diaspora, à travers les siècles, persécutés, même Adolf Hitler qui va en tuer 6 millions, ça ne sera pas fini. Mais la délivrance de Jésus, elle, pour le salut des hommes, était permanente, contrairement à celui des Pourim. Elle annonçait une œuvre plus complète, totale. Prochaine diapo. Dans Genèse chapitre 50, verset 20, il dit, « Vous aviez médité, vous aviez pensé de me faire du mal. Dieu l'a pensé, lui, en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. » C'est Jacob, mais Joseph qui dit ça à ses frères, qui l'ont trahi. Dieu est resté en contrôle, malgré l'apparence de manque de contrôle, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Et là, on comprend les paroles de Romains qui disent, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Même le malheur. Dans Jérémie, il mentionne les 70 ans que les gens allaient être en exil. Il dit, j'ai des projets bons pour vous, pas des projets de malheur. Ça passait par de la souffrance. Ça allait aboutir à quelque chose de bon, mais ça passait par la souffrance. Donc, la lecture fidèle, Le lecteur fidèle est appelé à faire confiance à Dieu, au Dieu qui s'est révélé dans le passé, quelles que soient les circonstances présentes. Peut-être que vous avez un défi ce matin, personnel. On peut fermer le PowerPoint. Vous avez un défi personnel ce matin et pour lequel le Seigneur veut que vous lui fassiez confiance vis-à-vis son souverain contrôle, de lui abandonner votre situation. Je reviens au monsieur qui avait fait le naufrage au début. Il a dû tout perdre, même le petit peu qu'il avait réussi à réacquérir sur le bord de la plage, pour qu'il puisse être délivré et sauvé. Il devait tout perdre pour le vivre. Les circonstances n'étaient pas favorables. Il semblait être maudit. Et Dieu ne semblait pas être présent. Et pourtant, il y était. Où vous situez-vous personnellement dans cette histoire? Avez-vous bâti vous-même un royaume et vous vous amassez ici-bas une gloire personnelle? Vous êtes-vous arrangé pour que votre nom soit connu aussi comme amant? Est-ce que c'est votre but ultime? Avez-vous manipulé les choses pour que vos plans arrivent en manipulant? Tellement que vous voulez arriver à votre fin. Avez-vous l'impression que Dieu a été absent ou lointain de vous? Je voudrais terminer ce matin en vous rappelant que si le Seigneur vous a paru éloigné, il n'a jamais cessé d'être à vos côtés. Depuis, il continue de l'être et il connaît présentement votre cœur. Il sait ce qui se passe dans votre âme présentement. Il connaît votre combat, vos craintes. Il n'ignore rien en même temps des impuretés cachées dans nos motifs. Il connaît tout l'intérieur et il connaît la dépravation de notre péché. Mais, au-delà de ça, il entend votre signal. Il ne se détournera pas de vous. Faites-lui confiance en attendant la délivrance. Sans enlever notre responsabilité humaine d'action. Voilà ce que le livre nous laisse avec. Beaucoup de choses qui pourraient être dites encore, mais on va aller dans la prière et remettre ce qu'on a appris ce matin dans les mains du Seigneur. Peut-être ce matin, votre situation, votre cause, c'est le temps de l'abandonner au Seigneur, peu importe ce qu'elle est. Vous êtes invité ce matin à l'abandonner des mains du Dieu dont le nom n'était même pas écrit dans le livre et pourtant qui est en contrôle. Seigneur, on reconnaît ce matin que tu es ce Dieu. Seigneur, on reconnaît ce matin que tu es le Dieu puissant qui ne perd pas contrôle des circonstances. Et on veut, Seigneur, t'adorer ce matin, on veut le proclamer, on veut être fier, Seigneur, du Dieu dont le nom n'est même pas proclamé et qui pourtant est si puissant. On veut te louer, Seigneur, parce que tu as opéré une délivrance encore plus grande que si on célèbre cette fête de Pourim, on fait juste annoncer une délivrance plus grande que tu as fait par ton fils Jésus. Puis on veut, Seigneur, te remercier pour Jésus. On veut te remercier, Seigneur, pour la joie qu'il nous procure lorsqu'on le connaît, lorsqu'on le comprend, lorsqu'on croit en lui. Et que malgré qu'on peut apprécier et être content d'une telle délivrance que Esther et Mardochée ont pu contribuer par ton contrôle des circonstances, Seigneur, à leur peuple, et que cette histoire nous demeure jusqu'à nous, et qu'il est fêté depuis plus de 2500 ans. Seigneur, on reconnaît que la délivrance de nos âmes par Jésus-Christ est plus grande que même les 70 hommes, 70 000 personnes qui ont péri, et les milliers qui auraient pu être tués parmi les Juifs. La délivrance de nos âmes, de nos péchés, était plus grande par ton Fils Jésus, qui lui était parfait. C'est ce qu'on veut célébrer ultimement. Cette histoire n'est qu'un présage, une image de cette plus grande délivrance. Et Seigneur, il serait triste ce matin qu'on puisse comprendre ce message et pourtant ne pas placer notre foi en Jésus-Christ. Ne pas lui demander pardon pour nos péchés et lui donner notre vie, lui abandonner le tout qu'on a pour gagner. Être prêt à tout perdre notre vie pour avoir celle que lui veut pour nous, celle que tu veux pour nous, Seigneur. Oh Seigneur, il y a un combat ce matin de s'abandonner à toi, un combat de s'abandonner pour demander pardon de nos péchés, un combat pour reconnaître des péchés cachés dans nos vies, un combat pour t'abandonner des situations pour lesquelles on tient encore prise. Et te dire, Seigneur, je veux faire comme Esther. Si je dois périr, je périrai. mais en te faisant confiance. Je vais faire un pas en avant, Seigneur, comme Esther. Je vais risquer ma vie. Je vais jeûner comme Mardoché. Et si tu me donnes une opportunité, Seigneur, de t'honorer, je le prendrai pour t'honorer toi, et non moi-même. On te confie ces situations, Seigneur. Donne-nous de fêter dignement la fête des Pourim. Gloire à ton nom, Seigneur, par ton nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.